On sait aussi que certains sont génétiquement mieux pourvus que d'autres, mieux armés. On sait aussi que les personnes les plus flexibles réagissent mieux que les plus rigides. On verra tout à l'heure, lorsqu'on abordera la phase d'épuisement et du burn-out, que les combatifs avec le souci de la performance sont plus sujets au stress et aux maladies psychosomatiques. Alors, quelle est la différence entre, puisqu'on parle toujours aujourd'hui de plus en plus du bon stress, quelle est la différence entre le bon stress et le mauvais stress? Le bon stress, lui, correspond à l'excitation de réaliser des projets plaisants. Il nous dynamise, il nous rend plus performants. C'est celui, vous savez, qui nous stimule, qui nous dope, qui dope nos capacités intellectuelles, par exemple lors d'un entretien d'embauche, lors d'un examen, où finalement on donne le meilleur de soi-même. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple de cette jeune femme qu'on va appeler Mylène, par exemple, qui présente une chronique radio tous les jours à 15h15, par exemple. Elle va faire au dernier moment ses corrections. Elle aime ce moment d'intensité particulier où juste avant de prendre le micro, elle se prépare. Eh bien, effectivement, tous les ingrédients seraient réunis pour que ce stress soit un mauvais stress puisqu'il est répétitif, hein. Eh bien non, pourquoi ne l'est-il pas pour elle? Parce que elle a une activité plaisante. Elle aime faire des recherches. Elle est dans une situation où elle va à la source de l'information. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que elle aime non seulement son métier, mais elle sait mobiliser et canaliser son énergie au bon moment. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas dépasser par ce stress. Et c'est justement ce qui va la stimuler. Le stress, c'est avant tout le courant qui va nous pousser à vivre, à réagir, à nous réveiller. C'est lui qui nous pousse face aux besoins d'une certaine situation à réagir également. À dose acceptable, il est un dopant qui va nous engager à l'action et déclencher nos réflexes de survie. Prenons également l'exemple de la personne qui, sans stimulation, sans stress, l'exemple de Pierre, par exemple. Il est cadre supérieur dans une société, il vient de prendre sa retraite, plus de reconnaissance sociale, plus de stress. Du statut d'actif, il tombe dans la passivité. Il se réveille le matin, il a mal au dos, il a toutes sortes de symptômes, il se sent inutile, il n'a plus d'objectifs précis. Et finalement, cette absence de stress va l'engourdir au point de se lever totalement apathique et de sombrer dans une sorte de dépression. On a tous connu autour de nous des gens hein, qui, comme ça, du statut d'actif, deviennent un peu plus léthargiques, qui n'ont pas préparé leur retraite. Je songe notamment à un couple que j'avais reçu il y a quelques années, en centre de thalasso notamment, qui était venu faire une cure de thalassothérapie et qui avait perdu un enfant lors d'un accident. Et ces deux personnes étaient très très actives et avaient bloqué ce deuil. Et quelques années après, au moment de la retraite justement, ont vraiment lâché la carapace et ont fait vraiment une dépression pratiquement en même temps, hein. C'est-à-dire tellement préoccupées et occupées dans leur agir compulsif, à ce moment-là, elles se sont autorisées à craquer et à vivre le deuil après quelques années. Hein. Donc l'absence de stress engourdit par trop de sécurité et génère une sorte d'indifférenciation à l'environnement. Aucun événement ne sort de la routine. Le temps perd ses repères. Le mauvais stress. Alors lui, c'est différent parce que le mauvais stress va nous obliger à subir des conditions de vie et de travail contraignantes et dépourvues de plaisir. Un trop-plein de stress va altérer d'ailleurs notre résistance et nous ronger. Citons comme exemple Paul, qui occupe un poste important, mais qui a à gérer au quotidien des conflits dans sa société. Il dort mal, il rumine en permanence, et il rumine son insatisfaction. Eh bien, s'il ne trouve pas de solution, il risque de développer une intolérance, non seulement dans sa vie professionnelle, mais à toutes les situations, hein, dans sa vie affective également. Donc celles-ci sont susceptibles de déboucher sur des lésions physiques, hein, qui auront tendance à attaquer plus particulièrement le système digestif, cardiaque et aussi cutané. On verra dans, tout à l'heure effectivement les principaux symptômes et où va se nicher finalement cet excès de cortisol lorsqu'effectivement on est en surstress. L'excès de stress se manifeste donc par une diminution des performances, mais aussi des difficultés de concentration. Il peut se traduire donc sur le plan psychologique, on l'a vu tout à l'heure à travers les exemples, par une sorte de perte de motivation, perte de confiance en soi, qui va générer, la perte de confiance en soi peut générer aussi une anxiété et voire même une dépression. Alors, sur le plan physiologique, comment ça se passe? Le cerveau va donner l'ordre aux glandes surrénales de libérer des hormones, notamment de l'adrénaline. Quand problèmes et frustrations s'accumulent, c'est le cortisol qui va prendre la relève. L'organisme va donc sécréter jusqu'à l'épuisement ce fameux cortisol. Ce même cortisol, d'ailleurs, qui est responsable de nos maladies. Qu'est-ce qui fait la différence, justement, sur le plan physiologique entre le bon stress et le mauvais stress? Sur le plan physiologique, le bon stress, l'adrénaline ne fait que passer, que séjourner. Lorsque, par exemple, il y a mauvais stress, c'est-à-dire le chef de service que vous voyez tous les jours, hein, ce que cela va générer, avec lequel vous êtes en conflit, cela va générer un stress répétitif. On sait que ce qui est usant, c'est l'intensité, mais c'est aussi la durée. C'est le stress le plus nocif, celui qui se répète. Eh bien, le fait de voir son chef de service qui nous insupporte au plus haut point tous les jours, donc stress répétitif, eh bien, ce cortisol qui va séjourner dans le corps va être donc responsable de nos maladies. C'est lui qui va générer ces fameuses maladies psychosomatiques. Alors, pour bien comprendre le stress et ses différentes phases, vous avez la première phase qui est la phase d'alarme. Cette phase d'alarme se caractérise en effet par différentes modifications, aussi bien sanguines qu'hormonales. C'est-à-dire il va y avoir des phénomènes, vous savez, des petits phénomènes qu'en général on occulte, petits clignements de paupières, sensations de frilosité, d'hypotension, donc il y a une baisse de température du corps. Souvent, il y a une perte de poids, hein, dans la phase d'alarme, qui, nous verrons après, qui va, dans la phase de résistance de nature nerveuse, qui va être une prise de poids. Donc, cette réaction d'alarme, si elle se répète trop souvent et si nous occultons ces signaux d'alarme, hein, qui sont ces petits signaux du corps, mais ils sont tellement anodins que la plupart du temps, on les occulte, hein, on passe outre. Eh bien, on entre alors dans une seconde phase qui est la phase de résistance de nature nerveuse. Vous savez, je suis fatiguée, mais je résiste. Donc, on entre effectivement là. On va pousser les mécanismes de résistance. On va pousser les mécanismes d'adaptation au maximum. Donc, sur le plan physiologique, si vous regardez un petit peu par rapport à la phase d'alarme, c'est l'effet inverse. Donc, ce sera accroissement de l'activité des glandes cortico-surrénales qui va générer hypertension. Vous avez vu que dans la phase précédente, c'était hypotension. Il va y avoir une suractivité des glandes sympathiques avec tout un cortège de maux que nous étudierons tout à l'heure dans les différents symptômes, notamment la sphère digestive, la gorge, etc., répercussions avec insomnie, contractures musculaires, tout l'appareil digestif est directement concerné par nos émotions. Donc, dans la phase d'épuisement, donc ces désagréments vont générer donc différentes maladies, hein, psychosomatiques et fonctionnelles.